Punchline, Patrice Boisfert sur Europe 1.
passé de 59 minutes, très heureux de vous retrouver sur CNews et Europe 1 pour ce nouveau numéro de Punchline. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. Le retour des grèves de train, gros mouvement de contrôleurs dès demain et cela tout le week-end. D'autres grèves sont prévues d'ici la fin de l'année avec en ligne de mire les vacances de Noël. Est-ce bien raisonnable? Le débat dans un instant. Cette grève inédite, pour ne pas dire historique, les médecins généralistes dans la rue, quelles sont les raisons de la colère? Le mouvement est-il parti pour durer? Le débat dans un instant. La France est-elle promise à des coupures de courant en janvier? L'exécutif prépare en tout cas les esprits et s'apprête à faire pourquoi pas le grand saut. Une simulation à l'échelle nationale est prévue par Enedis et RTE dans 8 jours. Et puis savoir redevenir frère d'armes, les sourires sont de sortie et les amabilités aussi. Emmanuel Macron est à la Maison Blanche aux côtés de Joe Biden. Quels sont les enjeux? Conférence de presse à 18h30. Ce sera dans une grosse demi-heure. Ce sera bien évidemment à vivre sur CNews et sur Europe 1. Mes invités, Éric Revel, bonsoir Éric, journaliste. Bonsoir. Éric Nolot, journaliste et écrivain également.
Bonsoir,
avec nous.
Patrice.
Rebonsoir. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico. Merci à tous les trois d'être avec nous. C'est parti pour le journal.
Europe 1, Punchline, Patrice Boisfert.
Il est 18h, bienvenue sur CNews et sur Europe 1. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Mylène de Mongeau est décédée. L'actrice s'est éteinte en début d'après-midi dans un hôpital parisien. Souvent comparée à Brigitte Bardot, elle a partagé l'affiche avec de nombreux grands noms du cinéma, notamment Louis de Funès ou encore Jean Marais dans Fantomas ou encore Claude Brasseur dans Camping. Mylène de Mongeau s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Le président français en visite d'État aux États-Unis, c'est en ce moment conférence de presse de Joe Biden et d'Emmanuel Macron à suivre dans une vingtaine de minutes sur l'antenne de CNews et d'Europe 1. Emmanuel Macron s'est exprimé depuis la Maison Blanche où il a été accueilli cet après-midi avec son épouse par le couple Biden. Il a notamment évoqué les liens très forts qui unissent les deux pays. Écoutez.
Cette histoire commune nous oblige. Aussi, face au retour de la guerre sur le sol européen suite à l'agression russe contre l'Ukraine et face aux crises multiples qui frappent nos nations et nos sociétés, il nous faut savoir redevenir frères d'armes.
Anticiper d'éventuelles coupures d'électricité, c'est en tout cas l'objet de la circulaire d'Elisabeth Borne, et circulaire qu'elle a adressée au préfet. Il s'agit de coupures programmées qui pourraient concerner 60% de la population, à l'exception des sites critiques et des clients prioritaires. Selon RTE, de telles coupures organisées en raison d'un manque d'électricité seraient inédites en France. Écoutez la Première ministre qui tente de rassurer.
Ce que je dis d'abord, c'est qu'on fait tout pour éviter des coupures, qu'on s'y prépare depuis des mois, notamment, vous savez, en remplissant nos stocks de gaz, en diversifiant nos approvisionnements, en s'assurant qu'EDF va au plus vite pour remettre en service les réacteurs qui sont arrêtés pour maintenance. Aussi, en renforçant notre sobriété, hein, c'est le plan sobriété qui avait été annoncé il y a quelques semaines, et quelque part, on a une partie de la réponse tous entre nos mains. C'est-à-dire que si on baisse tous nos consommations d'énergie, c'est bon pour le pouvoir d'achat de chacun, c'est bon pour la compétitivité des entreprises, et en même temps, ça évitera d'avoir ce que vous mentionnez, c'est-à-dire un moment où on aurait insuffisamment de production d'électricité par rapport à la demande.
Le retour de la grève à la SNCF, c'est prévu dès demain et pour tout le week-end. Le mouvement concerne les contrôleurs de train, ils réclament des augmentations de salaire et le même statut que leurs collègues conducteurs. Conséquence, 6 trains sur 10 TGV Intercités seront annulés entre ce vendredi et dimanche. Fabien Villedieu, délégué syndical Sudrail, sera notre invité dans un instant. Grève aussi des médecins généralistes. Plusieurs cabinets étaient fermés aujourd'hui, plus de 80%. Ils réclament le passage du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. La moyenne européenne est de 46 euros. Des médecins qui ont manifesté cet après-midi dans plusieurs villes de France et notamment dans la capitale. Écoutez leur colère.
Actuellement, on a une consultation à 25 euros, mais finalement, après les charges qui passent du cabinet, qui n'arrêtent pas d'augmenter avec l'inflation, il reste à peu près 10 euros. à la fin de la consultation pour nous, pour vivre. Et donc, du coup, ça n'attire plus les médecins, en fait, qui sortent de la fac à s'installer en France.
Et puis la Baie des Anges accueillera l'arrivée du Tour de France en 2024. La ville de Nice a été choisie par les organisateurs de la Grande Boucle. La raison, c'est bien sûr les Jeux Olympiques qui auront lieu à moins d'une semaine d'intervalle à Paris. L'annonce faite cet après-midi lors d'une conférence de presse. C'est la première fois depuis 1905 que le Tour de France déserte la capitale. Et puis souvenez-vous, en 2024, la course partira donc le 29 juin et arrivera le 21 juillet, 5 jours avant le début des Jeux Olympiques. Voilà pour le journal. Tout de suite, notre premier thème dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On commence avec l'une de ces grèves. La grève tout d'abord concernant les transports, le retour des grèves de train et ces gros mouvements de contrôleurs dès demain et cela tout le week-end. D'autres grèves sont prévues d'ici la fin de l'année avec en ligne de mire peut-être les vacances de Noël. Somaïa Labidi.
Avec 4 trains sur 10 en circulation, le week-end sera perturbé sur les lignes de la SNCF en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs. Parmi les lignes les plus impactées, le TGV Atlantique avec seulement 1 train sur 4 et 1 sur 4 sur le Ouigo. 1 train sur 3 pour le TGV Est, tout comme pour le TGV Sud-Est, 1 intercité sur 2, de quoi provoquer la colère des usagers.
Ils nous emmerdent. Voilà, c'est... Des revendications, toujours des revendications. On veut du pognon, on veut du pognon. Il n'y en a plus du pognon.
Déjà, le contexte, il n'est pas spécialement marrant. Je pense que si chacun mettait un petit peu de sien, peut-être que le contexte serait un petit peu moins difficile.
On devait prendre le train pour rentrer demain, mais on ne peut pas. Donc on va se débrouiller entre collègues pour entrer en voiture.
Un second préavis de grève a été annoncé, d'abord du 23 au 26 décembre, puis du 30 au 2 janvier. Certains usagers s'organisent déjà pour ne pas être impactés.
Je vais partir avant. Il faut prévoir le coup.
C'est embêtant pour beaucoup de gens, mais il faut aussi comprendre les gens qui le font parce qu'ils n'ont peut-être pas tout à fait le choix.
Les négociations annuelles obligatoires doivent s'engager le 7 décembre prochain entre la direction et les syndicats. Elles seront décisives concernant l'organisation des fêtes de fin d'année.
Éric Revel, est-ce que les grévistes sont partis pour gâcher les fêtes de fin d'année ?
Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas le croire parce que dans l'état de nervosité sociale dans lequel se trouvent les Français, si on les prive d'aller voir leur famille en province parce que cette grève pourrait perler et atteindre jusque y compris les vacances scolaires avec Noël, ça me semble pas possible à imaginer. Il y a un des intervenants qui m'a beaucoup intéressé qui dit, bon, vu le climat actuel quand même, chacun pourrait faire un effort. Alors, moi j'avais une petite punchline, c'est que l'État a mis en place un plan de sobriété énergétique. Vous vous souvenez, Madame Borne en parlait tout à l'heure, pour faire baisser la consommation. Est-ce que les syndicats ne pourraient pas mettre, sans qu'on leur impose, un plan de sobriété syndicale.
Attendez, vous voyez,
un plan de sobriété syndicale sans qu'on leur impose. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience, de la situation, ils prennent conscience de la situation sociale du pays et se disent on ne va pas faire encore supporter, après la grève qui a été extrêmement suivie et qui a handicapé tellement de Français, la grève du gazole et de l'essence, on ne va pas encore leur faire supporter cela. Vous voyez, c'est un vœu pieux, ce n'est pas seulement une idée lancée, mais on peut appeler Éric Nolot à la responsabilité des gens.
Oui,
c'est peut-être pas.
On
c'est
peut
peut-être
revenir
pas,
sur Terre aussi.
C'est peut-être, parce que bah, là, c'est, bah, oui, là, c'est bah, oui, oui, au pays des grèves. Oui, Nolot, mais au bout d'un moment, les Français n'en peuvent plus. Vous voyez.
Non, mais moi j'aime beaucoup la série Oui, oui, hein, mais je propose de quitter Oui, oui pour revenir en France. Il y a des activités saisonnières, des activités qui se passent l'hiver. Par exemple, les sports d'hiver. Et aussi la grève à la SNCF, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les syndicats disposent d'un levier formidable, puisqu'ils empêchent les gens soit d'aller en vacances, soit de rejoindre leur famille. Donc,
c'est chouette,
évidemment,
hein.
C'est une fenêtre d'opportunité. Ils ne vont pas s'en priver.
Ils ont essayé il n'y a pas longtemps. Ça n'a
exactement,
pas pris.
Exactement. Et là, il y a un coup de semonce, il y aura un deuxième coup de semonce la semaine prochaine. Et moi, je vous fiche mon billet que je retourne votre argument, mon cher Revel. Dans l'atmosphère actuelle, de nervosité actuelle, je vous jure qu'ils vont trouver un accord avant les fêtes de Noël et que cette grève n'aura pas lieu, tout simplement parce que le gouvernement ne peut pas se payer le luxe de cette
grève. Et vous trouvez ce genre de bras de fer légitime ?
Je ne me prononce pas là-dessus. Je dis simplement que les syndicats jouent leur jeu et qu'ils vont gagner parce que le gouvernement ne peut pas se payer le luxe de cette crise et de cette grève.
Jean-Sébastien Ferjou.
Ben, moi, ça me fait pas penser à oui, ça me fait penser à Martine. Martine est en pleine putréfaction. Enfin, si on raisonne sur la France, en pleine déliquescence à minima. Non, mais peut-être plutôt qu'un plan de sobriété syndicale, si stricto sensu, un plan de sobriété conflictuelle, ce qui n'est pas exactement la même chose, parce que nous avons besoin de syndicats. Je sais bien que ça n'est pas ce que voulait dire, que Éric Revel ne disait pas que nous n'avons pas besoin de syndicats, mais il faudrait plus d'intelligence dans la négociation sociale. Maintenant, la probabilité que ça se passe dans le délai imparti est effectivement extrêmement faible. Il y a des élections qui s'annoncent, des élections syndicales qui s'annoncent en début d'année prochaine. Il y a une espèce de concurrence de la part des syndicats pour montrer ceux qui seront le plus capables d'arracher des concessions. Mais justement, c'est peut-être là où un plan de sobriété conflictuelle pourrait être intéressant, qu'il y ait un dialogue social qui soit plus intelligent, tout pris en compte, que ce que nous avons connu. Parce qu'en face, bien souvent, il y a aussi l'État qui fait assez peu d'efforts, ou les directions qui font assez peu d'efforts, parce qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre budgétaire. Mais pourquoi n'avons-nous aucune marge de manœuvre budgétaire ? Parce qu'il y a des gaspillages de dingue sur beaucoup de budgets à la SNCF comme ailleurs. Vous regardez le nombre de cadres supérieurs qu'il y a à la SNCF. La densité de cadres supérieurs au siège de la SNCF mais dépasse à la fois l'entendement et tout ce qui peut exister dans n'importe quelle autre entreprise de taille comparable. Donc il faudrait avoir un plan de courage sur tailler dans les dépenses improductives et effectivement pouvoir mieux rémunérer des gens qui méritent de l'être.
Éric Nolot va vous traiter de oui-oui aussi.
Alors justement, Éric Nolot, en 30 secondes, s'il vous plaît, on ne peut pas à un moment trouver un plan, un accord qui, je ne sais pas, sécurise tout le monde pendant 4-5 ans et pas seulement pendant 4-5 mois.
Ça, ce n'est pas du tout la culture française. Il suffit de franchir le Rhin.
Et ça, on ne peut pas changer
On essaye, hein, ça fait des années, mais la France,
le GHB, vous donnez
la France
le
GHB est un pays conflictuel. On l'a vu avec les Gilets jaunes, quand même. Hein. C'est rare de voir des spectacles pareils dans un pays occidental, un niveau de violence des deux côtés des barricades, d'ailleurs. C'est un pays très violent et c'est un pays très conflictuel. Et on n'arrive pas à sortir de cette culture. J'aimerais bien, parce que c'est le bon sens, c'est même la rationalité qui parlerait, mais nous n'en prenons pas le chemin. Pas du tout. Et l'atmosphère de nervosité générale ne pousse pas à ça.
Il y a un sujet peut-être qui va nous permettre d'avoir une intersection commune, messieurs. C'est, en fait, dans ce pays, le paritarisme est en grande difficulté. Les négociations, en fait, entre partenaires sociaux est en grande difficulté. D'ailleurs, on peut même dire qu'au début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron a mis les pieds sur le paritarisme. Je vais vous donner juste un exemple. Ce qui se passe en ce moment, dans un silence assourdissant, c'est la captation de la trésorerie de l'Agirc-Arrco, des régimes de retraite. Voilà une caisse qui dégageait de la trésorerie, voilà une caisse qui honorait le paritarisme, discussion entre syndicats patronaux et syndicats salariés, et tout ça est en train de voler au déclat au profit de l'URSSAF. Mais non seulement il y a un problème financier, mais il y a un problème de respect du paritarisme. Vous voyez, mon cher Nolot, je respecte le paritarisme.
Allez, vous
et
restez
je ne
avec
suis pas
nous.
Dans un monde de oui-oui.
Vous restez avec nous dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, on parle d'une toute autre grève, mais tout aussi inquiétante, concernante celle des médecins généralistes. Ils en ont ras-le-bol. A tout de suite, on en parle avec Jérôme Marty, qui est le président de l'Union française pour une médecine libre.
Punchline, Patrice Boisfer sur Europe 1.
Passé de 16 minutes sur CNews et sur Europe 1. Merci encore de votre fidélité. J'espère que tout va bien chez vous. Vous êtes confortablement installé. On pense notamment aux auditeurs d'Europe 1 qui sont peut-être, pourquoi pas, à cette heure-là dans les embouteillages. On est toujours avec Éric Revel, journaliste, avec Éric Nolot, qui est journaliste et écrivain, avec Jean-Sébastien Ferjou, qui est directeur d'Atlantico, avec bonsoir Jérôme Marty, qui vient nous rejoindre, président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre, et vient nous rejoindre également Fabien Villedieu. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué syndical à Sudrail. On parlait juste avant cette pause, cette coupure pub, de ce nouveau mouvement de grève qui est entamé demain. Est-ce que c'est parti pour perler ? Est-ce que c'est parti pour gâcher les fêtes de Noël ?
Bon, on ne part pas sur gâcher, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une mobilisation dont les organisations syndicales sont à l'initiative, c'est une mobilisation qui est issue d'un collectif, un collectif de contrôleurs qui sont venus nous voir, voilà, et qui nous ont dit qu'il y a un ras-le-bol, il y a un ras-le-bol par rapport à leurs conditions de travail qui se sont détériorées par rapport aux effectifs, qui fait qu'il y a énormément de problèmes, là où souvent ils doivent se retrouver à deux, ils se retrouvent tout seuls à gérer les problèmes. Régulièrement, vous faites la une sur les problèmes dans les trains, voilà, de retard, des trains en panne, des trains à l'arrêt. Bien souvent, le contrôleur, il se retrouve dans le train, voilà, à gérer quelquefois 400, 500 voyageurs qui, on peut le comprendre, sont en colère. Et au regard de tout ça, ils se sentent pas reconnus. Moi, j'ai beaucoup de contrôleurs qui m'appellent. Moi, je suis pas contrôleur, hein, je suis agent de conduite. Et donc, du coup, souvent, quand j'interviens, ils me disent, là, j'ai plein de collègues qui m'appellent, ils me disent, il faut que tu insistes là-dessus, il faut que tu dises ça. Voilà, voilà la réalité de notre métier, voilà ce qui nous arrive, voilà la pénibilité, voilà tous les problèmes aujourd'hui, parce que la SNCF a supprimé énormément de postes un petit peu partout, quasiment plus personne, sauf dans les grandes gares de cheminots. Il n'y a plus de personne, il n'y a plus de cheminots dans les gares, il n'y a plus de cheminots sur les quais. Donc, le seul interlocuteur qu'ont les voyageurs lorsqu'ils sont en colère, eh ben, c'est le contrôleur.
Vous n'avez
c'est
pas le sentiment,
l'agent de conduite.
Fabien...
Moi, l'agent de conduite, je suis dans ma cabine. Voilà, donc heureusement.
Vous n'avez pas le sentiment, Fabien Villedieu, de rajouter un peu d'huile sur le feu, si je puis dire, au vu du contexte qui est quand même compliqué, que ce soit l'énergie, que ce soit l'économie. On a eu un sujet il y a quelques minutes, juste avant que vous arriviez, avec des Français qui en avaient ras-le-bol et qui disaient en gros que c'était la grève de trop.
Et pourquoi la grève de trop ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la grève de trop ? On a changé la Constitution, il n'y a plus le droit de grève en France. Voilà. J'espère qu'en France... Enfin, on n'est pas en Chine, ici, quoi. J'espère qu'on a le droit de faire grève. Enfin, j'espère que...
Je crois
c'est
qu'il
pas parce qu'il y a des problèmes d'énergie, c'est pas parce qu'il y a des problèmes d'énergie ou des problèmes à droite ou à gauche. Non. Écoutez, le droit de grève, c'est pas un droit à la con. Voilà. C'est un droit constitutionnel, c'est-à-dire le droit au-dessus de tous les autres droits. Voilà. Est-ce que oui, en France, on a encore le droit de faire grève, quoi, le 2 décembre.
Est-ce qu'on a le droit de faire grève tous les trois mois ?
Est-ce qu'on a le droit de faire grève ce week-end ? Est-ce qu'on a le droit d'exercer ce droit de grève ? C'est une question tout simple que je pose. Si on a le droit, à partir de là, on part de... Et par ailleurs, je tiens à dire, cela ne vient pas des organisations syndicales. Ça vient d'un ras-le-bol des contrôleurs. Alors on peut mettre un couvercle sur Sudrail, on peut m'empêcher de parler, on peut m'empêcher de parler de la CGT, toutes les organisations syndicales, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que lorsque les contrôleurs disent qu'ils en ont ras la casquette, il faut les écouter un petit peu. Voilà. Il y a eu quand même ce qui s'est passé le 18 octobre, une petite piqûre de rappel en disant qu'il y a un certain nombre de soucis, notamment sur des histoires de rémunération, mais pas que sur des problèmes de rémunération, c'est des problèmes de reconnaissance. Moi, j'ai des collègues contrôleurs qui m'appellent, qui me disent qu'ils ont l'impression d'être maltraités. Maltraités, vous imaginez, maltraités. Alors que le contrôleur, c'est la vitrine de la SNCF. Quand vous rentrez dans le TGV, bah, le seul cheminot que vous contactez, avec qui vous avez, c'est le contrôleur. C'est lui la vitrine. Donc il faut que ça se passe bien. Si la vitrine de la SNCF, il ne se sent pas considéré, il se sent maltraité, eh bien là, ça va pas. Là, il y a un véritable problème. Donc il faut l'écouter. Il faut, je sais, supprimer des trains, ça embête les voyageurs. J'en ai conscience, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut écouter parce que les trains, aujourd'hui, bah, il y a besoin des contrôleurs pour que ça circule.
Fabien Villedieu, qui est un petit peu plus d'un mois, alors ce n'était pas les contrôleurs d'accord, mais c'était les syndicats, ils étaient montés au créneau. C'était juste avant cette marche, je me souviens, contre la
18
Vichère,
octobre, oui.
Le 18 octobre. Et je me souviens que assez rapidement, vous aviez donné rendez-vous au peuple français, justement à la fin d'année, parce que vous savez que c'est votre principal levier.
Non, c'est pas notre principal levier.
Là, c'est plus efficace en tout cas.
Faut pas rentrer toujours dans la quête. Bah oui, si vous me dites qu'une grève le dimanche matin sera toujours moins efficace qu'une grève le vendredi soir, soit la réponse est oui.
Mais de toute façon.
Oui, mais je le reconnais, mais il n'y a pas de souci.
Mais de toute façon, que c'est un droit, mais qu'il y a des modalités d'exercer ce droit et que vous l'exercez de manière à ce qu'il ait l'efficacité maximale.
Donc on l'exerce en respectant les modalités. Oui, le préavis a été déposé le 2 novembre. Il y a un mois,
personne ne remet en cause ça, de
grève surprise. Il y a un mois, le préavis a été déposé. Donc il y a eu une communication surprise de la part de la SNCF. Ça, c'est vrai, je le reconnais. Mais par contre, ça fait un mois qu'on aurait pu trouver des solutions. Et par ailleurs, voilà, ces collègues contrôleurs se sont déroulants. Ils ne se reconnaissent pas. Ils ont l'impression que la SNCF ne les reconnaît pas comme des roulants.
Jérôme Marty, vous êtes le président de l'UFML. Vous êtes...
Punchline. Patrice Boisfert sur Europe 1.
passé de 35 minutes de retour dans le studio Europe 1 CNews pour la suite de Punchline avec Éric Revel, journaliste, avec Éric Nolot, qui est journaliste et écrivain, avec Jean-Sébastien Ferjou, qui est directeur d'Atlantico, avec Jérôme Marty, qui est le président de l'Union française pour une médecine libre, et avec Fabien Villedieu, qui est délégué syndicat Sudrail. Il y a cette grève inédite, historique chez les médecins généralistes, on en a parlé il y a quelques instants, il y a également cette grève de train, gros mouvement de contrôleurs dès demain, et cela tout le week-end. D'autres grèves sont prévues d'ici la fin de l'année, avec en ligne de mire eh bien, notamment les vacances de Noël. Écoutez le sentiment d'Alexis Corbière, le député de la France insoumise.
La grève, c'est toujours un constat d'échec. Maintenant, c'est la faute à qui ? Est-ce que dans ce pays, on est uniquement là pour commenter les conséquences négatives de ce que fait le gouvernement ? Ou est-ce qu'on essaie d'en comprendre quelles en sont les racines ? Moi, quand il y a des salariés qui disent voilà, on est mal payé, on est en situation de sous-effectif, le service public est dégradé, qui sont méprisés par leur direction, qui disent au bout d'un moment on est obligé d'arriver à la grève, je suis pas l'imbécile qui regarde le doigt quand on monte la lune, hein, j'essaie de comprendre. Et ce que je dis, c'est que je suis pour la défense du service public.
Éric Nolot, concilier droit de grève et continuité dans les services publics, c'est mission impossible en France ?
Il y a un service public qui est un service minimum pardon public qui est prévu. Après, il faut s'entendre sur le niveau de ce service minimum. Voilà, c'est jamais assez pour les usagers, c'est toujours un peu trop pour les syndicats, d'après ce que j'ai compris. Mais puisque nous avons un syndicaliste sur le plateau, est-ce que
il va ressembler à quoi ce service minimum ?
C'est pas moi qui ai fait la loi. L'obligation légale, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des délais incompressibles pour poser des préavis de grève, voilà, qui étaient avant de 5 jours et qui sont maintenant passés à 15 jours. Et là, on a été cool parce qu'on a mis un délai de 1 mois, ce qui permettait bien au-delà des minimums légaux qui sont au moins de 15 jours. On a mis 1 mois pour être sûr de pouvoir discuter, négocier. Le problème, c'est ce qu'on a. Et c'est toujours la même chose avec la direction de la SNCF, c'est que la SNCF, elle voit un préavis. S'il y a des gens qui se déclarent en grève, ils commencent à nous appeler en disant « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Ils ne sont pas contents. Mais s'ils voient qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en grève, il n'y a aucune négociation. Donc nous, on a mis pendant un mois, bien à l'avance, à partir du 2 novembre, la grève, elle commence le 2 décembre, en disant « Mais allô, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une colère, ce n'est pas des syndicats, ça ne vient pas des syndicats. Nous, on fait une grève, c'est le 7 novembre. » C'est mercredi, voilà, sur les salaires. Donc nous, on était partis là-dessus.
Oui, mais les Français, Fabien Villedieu, ils vont retenir que c'est la SNCF. Ils vont pas se dire que c'est les contrôleurs. Ils vont mettre tout le monde dans le même sac, vous savez bien.
Oui, évidemment, c'est la SNCF et tout le monde sera mis dans le même sac. Mais voilà, après, on a dans le privé, il n'y a pas besoin de préavis de grève. Mm-hmm. Voilà, vous pouvez arriver le matin, l'organisation syndicale signe les revendications et vous pouvez vous mettre en grève. Nous, il y a un certain nombre de contraintes. Fait qu'on n'est pas là-dessus.
Oui, j'entends ce que vous dites, mais on a quand même le sentiment, pardonnez-moi, que c'est tous les mois qu'il y a un préavis de grève. Tous les mois, vous avez un corporatif. J'exagère, mais à peine.
Ça fait un mois et demi. C'était 18 octobre.
Bon, oui, j'étais pas très loin, un peu plus d'un mois.
Et avant, c'était juillet.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des corporatismes, évidemment, à la SNCF, il y a des métiers différents, il y a des revendications différentes, mais au bout du bout, en fait... c'est peut-être une apalissade, une banalité pour vous, mais au bout du bout, c'est le citoyen lambda qui va payer tout ça, en réalité. La SNCF, c'est un service public. Si la SNCF ne peut pas assurer ses missions, M. Villedieu, pour des raisons X ou Y, est-ce qu'à chaque fois, votre seul levier, c'est de... Éric Nolot n'aime pas l'expression, mais je vais l'employer, c'est de prendre en otage les citoyens qui y sont pour rien, qui veulent aller bosser, enfin vous le savez tout ça. Et puis si je rajoute là-dessus ce qu'a dit le gouvernement tout à l'heure, ou hier, avec les coupures de courant, on va sans doute arrêter des TER, on va sans doute arrêter des trains. Vous avez des Français qui sont dans une situation psychologique et sociale extrêmement compliquée.
Qui attend ses fêtes pour aller voir.
J'ai employé un mot tout à l'heure qui a fait sourire et qui ne va pas vous plaire, mais... Le gouvernement met en place un plan de sobriété énergétique. Est-ce que on ne pourrait pas, du côté des syndicats, de manière volontaire, pour une fois, avoir une sorte de plan de sobriété syndicale ou conflictuelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure ?
Réponse de Fabien Villedieu, délégué Sudrail.
Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les cheminots, moi, je vous le dis, on est maltraités aujourd'hui. Et la SNCF, elle est maltraitante. Voilà. Et qu'on peut arrêter de faire grève, le problème nous reviendra quand même en pleine face. Là, moi, je vous le dis, sur ma ligne D, je suis conducteur sur la ligne D, à partir de lundi, il y a un plan de transport qui se réduit. C'est-à-dire qu'il y aura moins de trains. Donc, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Ah, parce qu'il y a des problèmes de matériel. Et pourquoi il y a des problèmes de matériel ? Parce qu'on n'arrive pas à embaucher, on a des problèmes d'effectifs. On peut ne pas faire grève. On peut dire, voilà, ça y est, il n'y a plus de grève, machin. Mais ça nous reviendra quand même. Pourquoi on se bat, nous ? On essaye on se bat pourquoi ? Pour améliorer les salaires. Les salaires, ça permet de gagner en attractivité et ça peut répondre en partie à la question des effectifs. Quand je vois, par exemple, en Hauts-de-France, Xavier Bertrand, il gueule et il a raison de gueuler. Le plan de transport est réduit de 10%, c'est-à-dire qu'il y a 10% des trains en moins tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas à embaucher des conducteurs de train. C'est un truc de dingue. Et tout ça se multiplie un petit peu partout. Donc, nous, on essaye juste d'alerter. Aujourd'hui, il y a un problème de maltraitance qu'on subit à la SNCF. Et si on arrête ça,
on arrivera à avoir de l'attractivité, on arrivera à avoir des effectifs et on arrivera à avoir, moi je vous dis, je crois aux qualités de service et aujourd'hui la qualité de service
Je suis d'accord avec une partie de votre argumentation sur la qualité du service public ou avec la question que posait Alexis Corbière. Parce que la France, ouais, finit par me faire penser à une jeune fille ou un jeune homme, peu importe, qui pense qu'il est top modèle. On a le meilleur système social au monde, sauf que le régime qu'on s'impose, il finit par nous faire être dans un état d'obésité maladive. Et c'est exactement ça. Mais on continue à répéter que nous avons le meilleur système social au monde et qu'il faut tout faire pour le sauver. Mais non, regardez ce qu'on a développé. On a développé, moi j'appelle ça le compitalisme. C'est pas le capitalisme, c'est le mix de la logique comptable et capitaliste. Et on a le pire des deux mondes. Et précisément, pour avoir un service public, oui, tout État qui se tient a besoin de services publics de qualité. Après, on peut avoir des discussions sur l'ampleur de ce qui relève du service public ou de ce qui pourrait être assuré plus efficacement par le privé. Mais oui, il y a besoin d'un service public de qualité, de mission régalienne de l'État qui soit assuré. Mais vous voyez bien que le modèle entier français ne tient plus. Il est en déliquescence partout. Ça, on ne tient plus sur l'éducation nationale, on ne tient plus dans les hôpitaux, on ne tient plus sur le plan de la police, on ne tient même pas sur l'armée. On voit bien que de toute façon, si on devait subir un conflit majeur, on n'est plus en état d'y faire face. Et donc, le modèle lui-même est vérolé. Mais qui aura le courage de le déconstruire? Et dès qu'on fait une proposition, on vous accuse de sauvagerie libérale. Mais je suis désolé, ce n'est pas la sauvagerie libérale qui amène aux démissions et à la faiblesse de la qualité du travail et qui fait que la SNCF est maltraitante. C'est précisément parce qu'on s'est enfermé dans une logique, comme je vous le disais, comptable depuis des années.
C'est Éric Nolot qui l'a.
On a fait, à partir de la coïncidence de ces grèves, un parallèle. Mais c'est assez différent parce qu'on a en effet l'impression que les médecins, de temps en temps, quand ils n'en peuvent plus, ils font une grève, tandis qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'abonnement à SNCF, une sorte de mouvement pendulaire, en effet, qui revient abonnement, oui, malheureusement, qui n'est pas très respecté. Donc, on est quand même très étonné que, dans un cas, ce soit vraiment le ras-le-bol des problèmes graves et qu'à la SNCF, en réalité, vous n'arrivez pas à travers le dialogue, à régler le problème globalement, qu'à chaque fois, c'est un petit problème que vous réglez jusqu'à la prochaine grève qui va en régler un autre.
Fabien Villedieu.
Voilà, cette dissonance de situation me frappe.
Mais d'abord, parce que des grèves, il y en a beaucoup dans beaucoup de secteurs professionnels, sauf qu'on n'en parle pas. Voilà. Nous, effectivement, on est une entreprise nationale et quand on fait grève, bah, ça se voit, il y a des conséquences. Donc tout de suite, c'est médiatisé. Quelquefois, je suis invité sur les plateaux, mais je pense qu'il y a un certain nombre de secteurs petit peu partout.
On vous invite tous les deux mois.
Oui. d'ailleurs, vous m'invitez que pendant les grèves, mais alors qu'il y a plein de choses à dire parce que sur l'histoire. Comment ?
Peut-être parce que si vous travaillez de reste du temps, c'est peut-être pour ça.
Oui, et je roule encore.
Voilà.
je tiens à rouler encore. Mais par rapport à ce que vous expliquez sur les problèmes qu'il y a dans le service public, parce qu'une des réponses qu'on apporte, voilà, c'est l'ouverture à la concurrence. On nous a dit à la SNCF, on va ouvrir à la concurrence et vous allez voir ce que vous allez voir, tout va bien marcher. Comme on allait ouvrir à la concurrence le secteur de l'énergie, on allait voir ce qu'on allait voir, on voit tellement que j'ai appris il y a encore pas très longtemps par un collègue de l'énergie qui me disait « Mais est-ce que tu sais que 95% de l'énergie est produite par EDF ?» Donc les concurrents d'EDF, ils produisent 5% de l'énergie. Mais alors, ils servent à quoi, alors ?
Jérôme Marty.
Ils servent à revendre l'électricité produite par EDF.
Pardonnez-moi juste, l'ouverture à la concurrence, mais les syndicats, vous l'avez toujours regardé de loin pour ne pas dire saboté. Je vais vous donner un exemple, vous allez vous en souvenir. Il y a eu des licences de fret qui ont été accordées à des compagnies privées, y compris à des groupes français. Des licences de fret pour pas que le fret de la SNCF soit en position de monopole. Quand vous aviez des retours de terrain, ce qui était mon cas, de la part de groupes privés qui avaient acheté des licences de fret, on expliquait que la SNCF et les syndicats faisaient passer le fret de la SNCF au détriment du fret de groupes privés qui pourtant avaient acheté des licences. Donc si vous voulez, je ne sais pas si la concurrence sera bonne dans le transport. Il y a d'autres pays qui montrent qu'elle n'est pas si bonne que ça. Je suis d'accord, mais pardonnez-moi, vous vous souvenez quand même de cette petite affaire de licence de fret, d'ouverture à la concurrence du fret français.
Moi, je ne vous parlais pas que de l'ouverture à la concurrence, parce que sur les transports, on l'a vu effectivement, notamment au Royaume-Uni, la privatisation, ça n'a pas produit des effets flamboyants. En revanche, le fait que le siège de la SNCF soit surpeuplé de cadres supérieurs dont on se demande ce à quoi il sert, c'est ça le sujet. Le problème du modèle français, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui sont à l'os, qui sont sur le front, parce qu'ils sont profs, ils sont infirmières, ils sont enseignants, bref, ou policiers, et pendant ce temps-là, il y a derrière des gens qui sont effectivement, qui bénéficient d'un statut public et qui ne font rien ou pas grand-chose. Allez. Pas forcément parce qu'ils sont paresseux, parce que l'organisation les porte justement d'ailleurs à être eux aussi victimes de souffrance au travail, mais parce qu'on a beaucoup trop de fonctionnaires dans des endroits qui ne servent à rien et pas assez sur les endroits où ils servent à quelque chose.
Fabien Villedieu.
Non, mais je ne laisserais pas dire qu'il y a une armée de réserves, de gens qui se...
Ah ben regardez le ratio de cadres à la SNCF par rapport à des entreprises de taille comparable.
Ça, c'est une autre difficulté. En tout cas, moi, je vois le ratio de gens qui sont sur le terrain, et notamment pour revenir aux collègues contrôleurs.
Quand
c'est je vois
ça que dont je vous parle.
Certains collègues contrôleurs m'expliquaient, même moi, je ne le savais pas, que sur des TGV à double niveau, en unité multiple, c'est-à-dire des TGV où il peut y avoir 2 fois 600, 1200 personnes,
ils m'expliquaient
que ça arrivait, qu'il était tout seul pour gérer 1200 personnes. Si le train il tombe en panne dans la Pampa, vous êtes tout seul à gérer 1200 personnes alors qu'il fait chaud, mais comment il fait? Voilà, et ça c'est la réalité. Alors peut-être qu'il doit y avoir un ou deux services où il y a un peu de gras, mais je peux vous dire que dans quasiment tous les services on est à l'os.
Allez, non, mais
sur le
terrain, Jérôme Marty.
Juste pour vous donner les différences. D'abord sur les périodes de grève. La précédente c'était en 2015, il y a 7 ans. La précédente avant 2015 c'était 13 ans avant. En 2002. Donc, en gros, les grèves chez les médecins, c'est tous les 10 ans. Nous, pour nous, celle-là, c'est la dernière chance. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Si on ne réussit pas ce mouvement, c'est la financiarisation qui prendra la main sur la médecine. C'est déjà en train de s'installer. Vous voyez des télécabines qui s'installent un peu partout, ce que j'appelle des cabines Afrique. Il y a eu encore un contrat qui s'est signé dans les Yvelines avec 36 cabines de téléconsultation qui se mettent en place. Vous avez des fonds de pension qui sont en train de mettre la main sur la médecine de ville. Et donc, des médecins qui deviendront des variables d'ajustement à des fonds de pension ou des grands groupes, etc. Et en face, vous aurez un NHS, comme en Angleterre, où il ne restera que les gros hôpitaux publics, les hôpitaux privés rachetant les hôpitaux périphériques. Voilà vers où on va. Donc nous, on veut l'empêcher. En sauvant la médecine, et nous, on n'a rien à vendre.
Et la médecine d'excellence, elle est passée où ?
Actuellement, elle n'existe pas, quoi. Nous, on n'a rien à vendre. On n'est pas des marchands. On est des médecins. Et tout ce qu'on veut défendre, c'est la qualité du soin. C'est ça aussi les différences qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est vraiment le dernier moment. Là, on est à un tournant. Le système étant moribond, ben les marchands se mettent dessus. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pour ça qu'on bouge, quoi. On a une conscience, quoi. On n'est pas... Et quand vous nous dites, oui, mais il y a la bronchiolite, il y a la grippe, bien sûr qu'elle y est. Mais le tournant, il est maintenant. Et c'est maintenant qu'il faut gagner.
Eric Nolo.
Oui, mais comment vous allez réussir à concilier les deux? C'est ça le problème.
Comment on concilie les deux?
Non, parce qu'on disait tout à l'heure, la SNCF, les cheminots ou les employés de la SNCF, ils ont un levier. Mais alors vous, c'est beaucoup plus compliqué.
C'est très compliqué.
Parce que là, la grève, si vraiment vous lâchez l'affaire alors qu'il y a trois épidémies qui frappent, là, je peux dire que votre popularité, ça ne va pas être terrible.
Alors la popularité, il y a un ministre qui nous a dit, je crois que c'est Mme Firmin Lebaudeau, qui a dit « Mais j'ai l'impression que les médecins sont de moins en moins populaires. Sans doute confondait-elle son activité actuelle avec celle des médecins. Nous, on n'a pas à chercher à être populaire. Hein.
Non, mais
c'est pas le problème.
Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une agressivité croissante concernant les médecins.
Et oui, c'est une évidence. Mais nous, ce qu'on veut proposer, ce qu'on veut protéger, c'est notre système solidaire. On a un système qui est le seul au monde où on cotise selon ses moyens, on perçoit selon ses besoins. Si on ne réussit pas ce mouvement, tôt ou tard, on le perdra. Et le vrai danger, il est là. Alors vous allez me dire, mais comment on finance 50 euros? Parce que c'est vrai, c'est le vrai problème, on dit un point sur l'horizon. Comment on va le financer? Je vous rappelle quand même qu'il y a des mutuelles et des assurances où quand vous cotisez 100 euros, 55 reviennent aux soins et 45 s'en vont en frais de gestion, en opération de communication, en régime prudentiel, etc. Il faut faire revenir cet argent. Je vous signale que ces mutuelles en question et ces assurances, pendant la Covid, n'ont pas sorti ça et ont augmenté leur cotisation de 6% à 8%. C'est ça aussi le vrai scandale. Quand vous avez 90 ans, j'en termine, parce que c'est important, Patrice. Quand vous avez 90 ans, que vous avez cotisé toute votre vie à une mutuelle, vous avez peut-être laissé 150 000 ou 200 000 euros à la mutuelle. Au 20e jour, la mutuelle vous dit, monsieur, on ne peut plus prendre en charge votre chambre seule. Ça suffit, quoi. L'argent, il doit revenir aux soins.
Fabien Villedieu, délégué sud-ouest.
S'il y a un élément en commun qu'on doit avoir, c'est l'humain, en fait. Et moi, je sais que les collègues, ils nous disent, aujourd'hui, on ne peut plus faire d'humain. Parce que quand vous arrivez dans les gares, vous avez plus de, il y avait plus de guichet. Vous avez un guichet automatique. Alors si vous n'avez pas de carte bleue, tant pis pour vous. Du coup, vous montez dans le train, le contrôleur, vu que vous n'avez pas de billet, parce que il n'y a pas de guichet et que le guichet automatique, souvent il est en panne. Du coup, il est obligé de vous aligner. Voilà. Donc du coup, on trouve dans des situations conflictuelles. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de collègues, notamment les agents commerciaux, qui disent qu'on a plus de relations humaines. Pourquoi ? Parce que la SNCF, elle a un objectif tous les ans.
moins 2000 cheminots. Tous les ans, moins 2000 cheminots. Tous les ans, moins 2000 cheminots. Eh bien, comment vous faites pour entretenir le rail, pour avoir suffisamment de personnes dans les trains, dans les gares, avoir de l'humain? Alors, on nous dit, oui, mais il y a les smartphones. Il faut être moderne maintenant. Voilà. Tu veux ton billet? Le smartphone. Bon, bah, des fois, tu es bien tout seul dans une gare de banlieue à 23h avec ton smartphone et tu as besoin de voir de l'humain. Les gens sont rassurés de voir des cheminots.
Je vous parlais tout à l'heure, c'est la logique comptable qui se substitue à l'intelligence des situations. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont l'activité est moins utile parce que le monde évolue et voilà. Sauf qu'on a tendance à préserver, à maintenir ces structures-là. C'est le cas à l'hôpital. Dans l'hôpital public, il y a des tas de métiers qui étaient utiles il y a 30 ans ou il y a 40 ans, qui ne le sont plus aujourd'hui, notamment parce que de toute façon, on fait appel à des prestataires privés pour respecter les normes. Mais il y avait des électriciens dans les hôpitaux, il y avait des gens qui faisaient même des potagers. Ces gens-là, on les a gardés ou on en a conservé les postes parce que, comme par hasard, c'était aussi les branches de profession qui étaient les plus syndicalisées. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que la rigidité d'une partie du syndicalisme français, avec en face l'esprit totalement technocratique et comptable de gens qui disent bah, « on s'en fiche parce qu'un agent égale un agent » et peu importe que ce soit un agent utile ou un agent qui est devenu inutile, c'est pas la personne qui est en cause, c'est la mission, eh ben, on arrive à la situation dans laquelle on est. Notre meilleur social au monde, comme je vous le disais, eh ben, c'est devenu le quasiment...
Allez, vous restez avec nous, messieurs, notre pastille football, comme tous les soirs avec Jacques Vendroux, France-Pologne, Angleterre-Sénégal, on en sait donc un petit peu plus sur le futur tableau des Bleus à la Coupe du Monde. Bonsoir, mon cher Jacques Vendroux. Depuis Doha. Tout va bien ?
Tout va bien.
Comment
et
vont
vous,
les Bleus,
mon et vous, tout va bien ?
Bah, nous, tout va très bien sur ce plateau. Merci de demander. Comment vont les Bleus et surtout, est-ce qu'on en sait un petit peu plus après cet imbroglio hier soir, ce but refusé à Antoine Griezmann à la dernière seconde contre la Tunisie ?
Ben, ça reste quand même une blague parce que Griezmann a marqué, son but est valable, quoi qu'il arrive. Vous pouvez regarder 10 000 fois, vous verrez que le but est valable. Après, ce qui est important, c'est que l'arbitre a autorisé le coup d'envoi de ce match après le but égalisateur de Griezmann. Et normalement, il n'avait pas le droit de donner l'autorisation de donner le coup d'envoi parce que il a donné le coup d'envoi et donc il n'a pas le droit de faire appel à la VAR après. C'est réglementaire. Donc de toute façon, on attend à un moment ou à un autre le référé entre guillemets de la Fédération française de football qui a posé réclamation et on attend bien sûr à tout moment eh bien, le résultat. Peut-être que la France aura ce match confirmé et cette défaite contre la Tunisie, ou peut-être que la FIFA et la commission de discipline de la FIFA et son arbitre, M. Collina, l'italien, eh bien, reviennent sur le but marqué et donnent tout simplement match nul entre l'équipe de France et la Tunisie. Bon, il n'y a pas. C'est pas grave, hein, mais c'est pour le principe. Ça ne va pas changer la face du monde, très honnêtement. Mais c'est pour le principe. À partir du moment où la France a raison, il est normal que la Fédération française de football eh bien, porte cette réclamation. Attendons. Voilà, on est dans notre droit, nous les Français.
Jacques, France-Pologne, c'est, on le sait bien sûr, le prochain c'est le huitième de finale, c'est la prochaine étape. Dimanche, et on sera bien évidemment avec vous sur CNews et sur Europe 1 pour en parler. Mais j'aimerais parler de Stéphanie Frappard et ce cocorico, forcément.
Ah oui. Non mais attendez, Stéphanie Frappard, c'est la fierté du football français. Elle a 38 ans, c'est la meilleure arbitre française de tous les temps et c'est l'une des meilleures arbitres du monde. Elle va diriger donc ce match Allemagne-Costa Rica qui est quand même un tout petit peu important notamment pour les Allemands. Et bien tout à l'heure, elle a été choisie et quand vous regardez le CV de Stéphanie Frappard, c'est la première femme à avoir à disputer arbitrer un match de phase finale de Coupe du Monde de football. Première femme à avoir arbitré en Ligue des Champions. Première femme à avoir arbitré la Coupe de France. Première femme à avoir arbitré, je veux dire, la Ligue 1, la Ligue 2, etc. C'est une pionnière et vraiment, elle mérite cette récompense parce qu'elle a beaucoup de qualités humaines. Elle fait partie du district du Val d'Oise et elle a été formée par Patrick Lhermitte, ancien arbitre international, qui a été son mentor pendant toutes ces années. Et vraiment, tout le monde est content parce que c'est la première fois qu'une femme rentre dans ce quota très particulier des arbitres d'une Coupe du Monde de football. Voilà, elle mérite amplement cette récompense parce qu'elle est brillante. Voilà, et tant mieux pour le foot français.
Merci mon cher Jacques. C'est donc la fin de ce punchline. On parlera bien évidemment foot ce soir sur l'antenne d'Europe 1 avec cette spéciale à 19h15, spéciale foot avec l'ami Lionel Rosso, ce Allemagne-Costa Rica qui sent bien évidemment la poudre. À 19h, le JT pas le JT, pardon, mais le journal, bien évidemment, avec Hélène Zellani. Et puis, dans un instant, sur CNews, Face à l'info, avec toute la bande de Christine Kelly. Passez une excellente soirée, notre compagnie.
Punchline, 18h-19h, Patrice Boisfert sur Europe 1.